Le Crétois,
c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
C'est toutes les semaines.
Et c'est maintenant.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est l'heure de l'actualité locale sur Radio Saint-Ferréol avec la lecture du Crétois qui est paru le 3 juillet 2026. De nouvelles personnes dans le studio aujourd'hui. Il y a Adette, pour qui c'est la première fois. Martine, qui est déjà venue, mais c'est la deuxième fois, elle me fait signe. Thierry et moi-même Sarah, qui vais lire quelques articles et qui est à la technique. Alors Martine, il y a, il me semble, en une du Crétois, un jeu de mots. Alors je vais essayer de vous le décrire, mais c'est compliqué effectivement quand on n'est pas en visuel. Qu'est-ce ? C-A-I-S-S-E. Donc qu'est-ce qu'on mange ?
Eh bien, Sarah, mieux se nourrir, quels que soient nos revenus, en rémunérant mieux les agriculteurs. Loin d'être une utopie, c'est le projet de la Caisse alimentaire des Vallées. Ce samedi 4 juillet, les habitants de la Vallée sont conviés à un grand rendez-vous. L'Assemblée des mangeurs, qui aura lieu dans les locaux de la communauté de communes du Val-de-Drôme, la CCVD, à Heure, de 14h à 20h. Au programme de cette journée, des ateliers cuisine, des jeux pour les enfants, mais aussi des stands de produits paysans avec trois prix payables uniquement en espèces et une présentation de la caisse alimentaire sur laquelle travaille depuis 2024 un collectif d'associations soutenu par la CCVD. L'idée dont nous vous avons déjà parlé, le Crétois du 10 avril 2024, est que pour faire vivre les producteurs et commerçants de la vallée, il faut des consommateurs et une solidarité entre eux qui ont plus de revenus et ceux qui en ont moins. En fonction de leurs ressources, des habitants volontaires cotisent ainsi à une caisse alimentaire. Puis, chacun perçoit une bourse alimentaire mensuelle à dépenser dans des lieux de distribution conventionnés, favorisant ainsi les agriculteurs locaux. En France, une soixantaine de caisses de ce type existent. Deux caisses ont récemment vu le jour à Die, ainsi qu'à Dieulefit-Bourdeaux, qui regroupe 159 foyers et 38 points de vente. Ainsi, le Spar de Bourdeaux affiche trois prix sur des produits conventionnés. Le premier est le juste prix, le second, solidaire, incite les plus à l'aise à payer un peu plus, afin de financer le troisième prix, un peu plus bas.
Histoire de voir ce que ça allait donner, une expérimentation de ce type a été menée du 25 juin au 3 juillet par l'épicerie de Beaufort-sur-Gervanne. À la caisse, proposition était faite aux clients de passage de choisir pour payer parmi trois jetons, soit bleu, au prix médian, soit rouge, avec 5% de plus, soit vert, avec 10% de moins. De passage à l'épicerie pour faire ses courses, Tim Heider, habitant de la vallée de Quin, se dit ravi. Il dit « Je connais le concept, j'étais maraîcher associatif. Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une meilleure alimentation. Après, j'ai besoin d'explications pour savoir dans quelle tranche de la population je suis, pour savoir quel jeton prendre. » Alice, beaufortoise, se montre tout aussi enthousiaste. « Je suis assez favorable aux prix différenciés sur plein de choses. C'est une compensation à ce que l'État ne fait pas. » Gaëlle, aussi beaufortoise, nuance. Faut oser dire qu'on a besoin du jeton vert et payer moins cher. Ce n'est pas évident. Ces interrogations, fort légitimes, ont logiquement émergé durant les dizaines de réunions organisées par les trois groupes citoyens qui ont émergé dans la vallée autour de l'épicerie de Beaufort, du centre social de Livron et de la MAP de Montoison. Marion Richaud, de l'épicerie, raconte. On a organisé des projections, des ciné-débats, une journée de l'alimentation. En tout, 90 personnes se sont inscrites pour avoir des nouvelles de la caisse alimentaire. Même chose à Livron, où le groupe de citoyens, très actif, est soutenu par le centre social et la municipalité. À noter qu'un groupe est aussi en cours de constitution autour de Cray et d'Aoust-sur-Scie. Aurélien Casta en fait partie. Nous nous réunissons une fois par mois à la MJC Mini-Chaise, à Aoust. La prochaine réunion aura lieu le 6 juillet à 18h30.
Tous ces citoyens motivés vont se réunir le 4 juillet avant d'entamer la prochaine étape, la mise en place de la caisse Alim des Vallées. Marion Richaud précise, on est au stade de la gouvernance. Dans chaque bassin de vie, il y a des comités locaux un peu informels et chacun de ces groupes enverra des représentants dans un comité citoyen qui décidera comment fonctionnera la caisse dans ses grandes lignes. Est-ce qu'on ne va conventionner que du bio ou pas forcément ? Halal ou pas halal ? Produits hyper formés, transformés ou pas ? On ne fera pas forcément la même chose à Beaufort et à Livron. Arboricultrice à Livron, Stéphanie Blasius se dit d'ailleurs très intéressée par cette caisse. J'ai découvert ce concept parce que je suis membre de l'AMAP de Montoison. Je trouve ça bien car ça permet une sécurisation et une juste rémunération pour nous les producteurs. Christian Caillet, vice-président de la CCVD, en charge de l'alimentation, renchérit. L'intérêt de cette initiative est évident. C'est un soutien à l'agriculture locale et à l'accès à une alimentation saine. Après, bio ou pas, ça sera au groupe de citoyens de décider. Nous, CCVD, ne sommes pas décisionnaires. C'est aux citoyens d'agir. C'est en tout cas bien parti. C'est un article de Blandine Flippot.
À Francillon, la maison Meige contrainte de fermer ses portes. La fermeture administrative du tiers-lieu a été décidée par la municipalité qui a laissé 48 heures aux occupants pour vider les lieux. Un coup de massue. Le lundi 29 juin, la maison Meige, le café culturel de Francillon-sur-Roubion, n'a eu d'autre choix que de prendre acte de l'arrêté municipal portant fermeture administrative de l'établissement et obligeant l'association qui gère le lieu à cesser immédiatement toute activité au sein du bâtiment et à libérer et ranger les lieux sous 48 heures. Un choc pour les bénévoles qui animent l'unique lieu de sociabilité du village, ouvert en novembre 2024 dans un bâtiment communal. Le mardi 30 juin, alors que le chant des cigales berçait le village, dans la torpeur estivale, les bénévoles de la maison Meige sonnaient, s'activaient pour vider les lieux et répartir de ci de là le matériel et les stocks du café. Isabelle Davois, Chantal Lyotard et Anaïs Favreau, membres actifs de l'association, accusent le coup. La fermeture du lieu aura des effets délétères bien au-delà de leur seule association, car la maison Meige implique un nombre d'acteurs de l'économie et de la culture locale. Elle accueille un dépôt de pain, des marchés artisanaux, des artistes du coin, des food trucks. Sans compter Jaja, qui cuisine toutes les semaines ses galettes sur Bilig. Je suis sur le cul, lance Jaja. Benjamin Frigoud, son vrai nom. Du jour au lendemain, l'auto-entrepreneur se retrouve sans travail. Une situation absurde à de nombreux égards, estime-t-il, tant la maison Meige a, depuis son ouverture, su vivifier la vie locale. On travaille localement, rappelle-t-il. On est un lieu apolitique, religieux. Un endroit d'intégration avec un public divers, des chasseurs, des paysans, des médecins, des administratifs, des sans-emploi. On a des anciens du village qui viennent manger ici et chercher du lien social. Un constat partagé par Thierry Fraud, le président de l'association communale de chasse agréée, l'ACA, habitué à la maison Meige. C'est regrettable, se désole cet agriculteur dont la famille est implantée dans la vallée du Roubion depuis des générations. Le plus dommage, c'est de perdre le lien social qu'apportait cet endroit, entre les nouveaux venus dans la commune et les anciens. Et le chasseur de relever que, malgré ses multiples vertus, la maison Meige ne plaisait pas à tout le monde à Francillon. C'est parfois difficile pour certains de voir les choses changer, raconte-t-il, mais il faut être ouvert aux autres arrivants. L'annonce de la fermeture est d'autant plus surprenante que la veille, dimanche 25 juin, la maison Meige animait, en partenariat avec l'ACA, l'événement phare de la commune, la fête des moissons, compte rendu à lire en page 9. La nouvelle ne pouvait d'ailleurs pas plus mal tomber pour l'association, qui vient d'embaucher un salarié pour la saison estivale. Mais si l'annonce de la fermeture a surpris tout le monde, elle n'est pas non plus sortie de nulle part. Depuis les élections municipales de mars 2026, les rumeurs allaient bon train sur les rives du Roubion au sujet de la maison Meige, si bien que le 15 mai, l'association avait publié un démenti dans nos colonnes sous le titre « La maison Meige ne va pas fermer ses portes ». Elle se disait alors visée par des propos pas toujours sympathiques qui frisent la calomnie. Il paraît qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Cela ne justifie pas les mensonges et les attaques gratuites qui sont véhiculées de Francillon à Cray.
Serait-ce donc une forme de rancœur à l'égard de l'association qui expliquerait la fermeture de la maison Meige ? Certainement pas, assure la mairie de Francillon. Pourquoi alors a-t-elle pris cet arrêté municipal ? Dans un communiqué que nous a adressé le nouveau maire, Christian Blachier, la commune explique par le menu les raisons qui l'ont conduite à décider la fermeture du lieu. Document à retrouver sur le cretois.fr. Rembobinons. En novembre 2024, l'association La Maison Meige se voit confier les clés du bâtiment du même nom au cœur du village par l'ancienne équipe municipale. Au fil de l'eau, l'association répertorie, à la demande de la municipalité, des malfaçons et autres irrégularités du nouveau bâtiment. Puis arrivent, en mars 2026, les élections municipales au cours desquelles deux listes vont s'affronter à Francillon, dans un climat pas toujours apaisé. L'une étant plutôt favorable à la maison Meige, l'autre l'étant plutôt moins. C'est finalement la seconde qui l'emporte à 14 voix près, pour 156 votantes et votants. Reprenons le fil. Après les élections, l'association transmet la liste des irrégularités du bâtiment à la nouvelle équipe. Inquiète, pour ne pas dire alarmée, cette dernière fait réaliser un audit de sécurité du bâtiment, qui lui est remis le 25 mai, et, dit la mairie, qui met en évidence des manquements importants en matière de sécurité et des insuffisances dans la gestion des risques de panique et des non-conformités incompatibles avec un établissement recevant du public. L'audit, écrit la mairie, recommande une fermeture temporaire du lieu. Dans un premier temps, poursuit-elle, nous avons fait le choix d'aller contre l'avis de l'expert et de ne pas fermer la maison Meige. Mais le conseil municipal n'était pas au bout de ses surprises. L'audit a aussi mis au jour des incohérences administratives nécessitant une mise en conformité indispensable pour sécuriser juridiquement l'avenir de ce bâtiment communal.
Après avoir pris attache avec un juriste, la commune découvre avec stupeur qu'une partie du bâtiment a été construite sur un terrain privé. Le préau et une partie de la cour de la maison Meige se trouvent sur une parcelle non communale de 255 mètres carrés. Et le propriétaire n'a pas été informé. Une irrégularité foncière majeure susceptible d'engager la responsabilité de la commune, s'inquiète-t-elle. Sur les conseils d'un avocat, elle décide donc de prendre un arrêté de fermeture administrative. Nous sommes pris dans un imbroglio administratif dont on est aussi victime, regrette Anaïs Favreau. Cette dernière, qui était encore élue municipale la semaine passée, vient d'annoncer sa démission au maire. « Je serai plus utile ailleurs », lance-t-elle. « On ne me donne aucune info. » Dans ce conseil, je ne sers qu'à corriger les fautes d'orthographe. Si la maison Meige a fermé ses portes, l'association, elle, ne renonce pas à sa mission d'animation culturelle. Nous allons continuer à agir hors les murs, promet Isabelle Cavoie. Un concert de soutien sera organisé le samedi 11 juillet à 20h avec les Brittles de la compagnie Bigre. De son côté, la commune espère que la fermeture sera la plus courte possible et promet de mettre tout en œuvre pour revenir à une occupation normale et sécurisée des lieux au plus tôt. Il n'y a plus qu'à. C'est un article de Martin Chouraki.
Fermeture évitée de justesse aux urgences de Cray. Le service des urgences du centre hospitalier de Cray reste sous tension. Il était moins une. Le service des urgences du centre hospitalier de Cray a bien failli fermer ses portes en pleine canicule entre le samedi 27 juin à 16h et le dimanche 28 à 9h. La fermeture avait même été annoncée publiquement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée in extremis. Grâce à l'engagement volontaire d'un médecin urgentiste que je remercie vivement, le service des urgences du centre hospitalier de Cray est resté ouvert, a écrit la directrice déléguée de l'hôpital, Marie-Lise Moulet, dans un communiqué publié le 26 juin. En début d'année, nous vous racontions que les urgences de Cray avaient été contraintes de fermer à deux reprises, fin décembre et début janvier, faute de médecins urgentistes. Et demain ? Le processus de recrutement d'un nouveau médecin annoncé à cette époque n'a pas encore porté ses fruits. Actuellement, les équipes du centre hospitalier de Cray s'efforcent d'assurer la continuité de service malgré une ressource médicale contrainte. grâce à l'aide des médecins urgentistes des établissements locaux, nous a indiqué Marie-Lise Moulet. Cette solidarité permet d'assurer le maintien de l'ouverture du service des urgences malgré une absence de dernière minute, comme l'a démontré la situation de vendredi dernier, poursuit-elle. Faut-il s'inquiéter de possibles fermetures des urgences dans les semaines à venir ? À 7 heures, répond Madame Moulet, il n'y a pas lieu d'annoncer d'éventuelles dates de fermeture auxquelles la communauté hospitalière ne se résout que lorsqu'aucune solution n'a pu être trouvée pour maintenir l'accès aux soins dans des conditions de qualité et de sécurité. Ou l'optimisme de la volonté. C'est un article de Martin Chouraki.
Zéro cliché au collège Armorin et à l'école de la Répara. Les établissements ont gagné des grands prix d'éducation aux médias. Belle reconnaissance pour les jeunes de la vallée de la Drôme. Le club radio du collège Armorin et la classe de CM2 de l'école de la Répara, en partenariat avec Radio Saint-Ferréol, se sont illustrés lors du concours national « Zéro cliché pour l'égalité filles-garçons », organisé par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Les deux établissements ont remporté les plus hautes distinctions dans leur catégorie. Le Grand Prix Audio, collège pour le club radio du Collège Armorin, et le Grand Prix Audio, école, pour la classe de CM2 de la Répara. Pour décrocher cette récompense, les collégiens ont réalisé un podcast de 5 minutes intitulé « Les stéréotypes de genre dans les mangas ». Une production qui interroge avec pertinence les représentations féminines et masculines dans cet univers culturel très apprécié des jeunes. Les lauréats ont été invités à la cérémonie officielle de remise des prix le 9 juin dans les locaux de France Télévisions à Paris. L'événement s'est déroulé en présence des journalistes Nasser Boubeker et Marianne Théolaire, parrains de cette édition, ainsi que des membres du jury. C'est un article de Florence Chambert.
Une journée pour la santé des femmes du monde rural. À Saillant, la MSA s'est mobilisée pour un événement dédié aux questions de santé féminine. En France, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays européens sur les questions de prévention, surtout dans le monde agricole, indique Jean-Philippe Bréchet, président de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. La prévention était donc au cœur de l'événement proposé à la salle des fêtes de Saillant le samedi 27 juin, à l'initiative de la MSA. 24 femmes ont pu bénéficier sur place d'un bilan cutané avec une dermatologue et 15 d'un bilan gynécologique avec des sages-femmes. Objectif, dépister des cancers de la peau ou du col de l'utérus. Le Centre régional de coordination pour le dépistage était également présent pour sensibiliser aux 3 dépistages organisés qui concernent les femmes à partir de 50 ans. Celui du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus, pour celles qui ne sont pas à jour de leur suivi gynécologique. Au-delà des questions de dépistage, les femmes ont pu accéder à de nombreuses informations sur la prévention, l'alimentation, l'accès aux soins, la santé sexuelle, la poursuite de l'activité professionnelle durant la grossesse, les violences faites aux femmes. La MSA a initié ces journées en 2024 avec une première édition à Nyons, un pari lancé par notre directeur adjoint, aujourd'hui décédé, Dominique Raboteau, et par la sénatrice Marie-Pierre Monnier. Depuis, nous souhaitons en organiser une par an dans chaque département, précise le président Jean-Philippe Bréchet. Des journées qui ne s'adressent pas uniquement aux agricultrices et femmes affiliées à la MSA, mais à toutes les femmes du monde rural. La Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, était d'ailleurs à Saillant samedi dernier, pour présenter sa mission d'accompagnement des usagers qui rencontrent des difficultés d'accès aux soins.
Autre stand présent, celui du centre de santé sexuelle de l'hôpital de Cré. J'ai notamment vu des femmes qui se posent des questions pour leurs ados, a indiqué Anne-Laure Bonnardel, conseillère conjugale et familiale. Elle distribuait à son stand des informations sur le harcèlement de rue et le consentement. L'association Les Chouettes Solidarité Femmes du Diois, référente en Drôme de la ligne d'écoute nationale 3919 pour les femmes victimes de violences, participait également. Objectif, se faire connaître des femmes ainsi que des autres structures partenaires réunies pour cette journée. L'association propose, entre autres, une écoute, des activités bol d'air et des accompagnements au dépôt de plainte ou à l'audience au tribunal.
Installée depuis un an et demi à Cray, l'antenne de la Ligue contre le cancer présentait aussi ses activités, notamment les séances d'activité physique adaptées pour les malades en cours de traitement, les cafés blabla ou encore les ateliers socio-esthétiques. Enfin, la MSA a notamment informé lors de cette journée sur le dispositif Cadre Rose conçu pour aider les femmes et les employeurs à mieux identifier les risques et à anticiper l'organisation nécessaire pour bien vivre sa grossesse tout en travaillant. La députée Marie Pochon, les écologistes, de passage en fin de matinée, a salué l'initiative de la MSA. C'est le type de journée dont on a besoin dans les territoires ruraux où, du fait des déserts médicaux, l'espérance de vie est de 2 ans de moins qu'en ville, a rappelé la députée. Après avoir échangé avec les dirigeants de la MSA et avec les différents organismes présents, Marie Pochon est repartie en insistant sur sa mission. Faire remonter à Paris les besoins entendus sur le terrain et faire en sorte que la MSA, la CPAM et les autres acteurs aient les moyens de mener les actions nécessaires. C'est un article de Sophie Sabot. Processwork, le trésor méconnu pour pacifier, une méthode créative de résolution de conflits. Du 9 au 11 juin, la ville de Cray a été le théâtre d'un événement marquant. Sous l'impulsion de Sophie de Brias, présidente de l'association Maison du Presswork à Paris, et en collaboration avec Anna Rode, directrice du centre CTCH, Centro del Transformación del Conflicto Humano, excusez-moi pour l'accent, en Espagne, accompagnée de Pierre-François en tant que facilitateur, cette rencontre a révélé la puissance transformatrice du passwork. Le bureau de l'association, en coopération avec Marjorie Pace, le relais drômois, a mis un cœur immense à l'ouvrage pour rendre ce moment possible, marquant ainsi une étape clé pour la reconnaissance de la discipline. Le presswork est une méthode créative de résolution de conflits qui permet d'explorer et de débattre de tous les points de vue pour atteindre une compréhension approfondie et des solutions inclusives. Plus qu'une simple méthode, cette approche du presswork constitue un véritable levier de changement. Elle repose sur le postulat audacieux que chaque tension, émotion ou signal corporel est une information précieuse pour avancer. Au cœur de cette démarche, les facilitateurs jouent un rôle majeur. Ces experts formés à la psychologie orientée processus, process work, possèdent l'art rare de naviguer au sein des tensions pour désamorcer, avec une précision chirurgicale, toute source de conflit pour en faire un apprentissage. Leur capacité à valoriser chaque individu pour établir une dynamique saine est un atout inestimable pour nos structures, qu'elles soient familiales, éducatives ou sociétales. Face à une telle efficacité, il est difficile de comprendre pourquoi cette pratique ne bénéficie pas d'un soutien à la hauteur de son potentiel dans notre pays. Le process work n'est pas une solution locale, c'est un véritable trésor national et international. Il est urgent qu'il sorte de la confidentialité. Sa capacité à pacifier durablement nos organisations est une ressource dont notre société a besoin pour traverser les défis actuels. Excusez-moi. Il est grand temps d'accompagner cette approche et de lui donner enfin la place qu'elle mérite, de la jeunesse aux citoyens de tous les jours. C'est un article de Naïma Bellimer.
Et voici le temps des annonces et des événements dans la vallée. Alors, à Cray, il y a une exposition au Centre d'art jusqu'au 11 octobre. Exposition à vélo, qui invite le public à plonger dans une exposition historique dédiée au monde du vélo. C'est du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30. Je vais à Piégros-la-Clastre, où il y a une exposition aux combes. Le peintre Nicole Grenier-Méricault expose ses toiles à la ferme des combes. C'est jusqu'au 15 juillet. Et puis, sautons à Montclar-sur-Gervanne. Il y a du jazz au village, le concert de Cascade Trio organisé par le Cré Jazz à Vaugelas le dimanche 5 juillet, c'est demain, à 21h à Vaugelas. Et puis la soirée Bernold et Friends, le vendredi 10 juillet à 21h, c'est au château de Vachères. Alors à Suze, ça recommence le marché du tiroir. Les marchés du tiroir reviennent le lundi 6 juillet. Et pour le premier marché, c'est un concert de Médusa, cumbia, avec 9 musiciennes. Le lundi 13 juillet, si vous ne pouvez pas venir le 6, c'est LGMX, c'est de l'électro. Je tourne les pages et nous allons à Heure. Ah, il y a un grand vide-grenier le dimanche 5 juillet dans les rues du village, organisé par le comité des fêtes. Ça a lieu de 7h à 17h et à Alex, PH Art Expo Collective, depuis le 26 juin au phare. Il y a des photographies. C'est vos trombines et vos portraits sur papier glacé. C'est une exposition à ne pas manquer. Alors aussi une autre exposition, mais ça c'est aux Ramières. C'est l'exposition « Au fil des sentiers, la vie sauvage » et c'est à découvrir à la gare des Ramières. C'est du 1er au 31 juillet. Et voilà, le vernissage a eu lieu hier, donc ça a démarré. Et voilà, maintenant allons à Chabrillan. Il y a un concert, ça s'appelle le concert Duo d'âme. L'association Les Amis de Chabrillan propose le concert de Duo d'âme avec Oriane Ponce et Nathalie Morazin. Piano et deux voix lyriques, musique baroque revisitée, Monteverdi, Purcell, Vivaldi. C'est le vendredi 10 juillet à 19h30 à la chapelle Saint-Pierre. Et puis Mozart dans la Drôme, de Bach à Piazzolla, c'est à Autichamp. C'est le voyage en corde le samedi 11 juillet à 21h au château. Et puis je continue à tourner les pages. À Puy-Saint-Martin, on joue les Précieuses Ridicules. Les Tréteaux de Fenouillet proposent la pièce de Molière. Les Précieuses Ridicules, c'est le vendredi 10 juillet à 21h au parc Adèle Clément. Et puis voilà pour ce que je voulais vous dire. Mais comme vous le savez, en dernière page du Crétois que vous achetez chaque semaine, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a la rubrique à découvrir également. Alors un concert, Quatuor Gracioso, le dimanche 5 juillet à 18h à l'église de Comps. C'est un concert violon et violoncelle sous le signe de l'émotion et de la diversité, au programme des œuvres de Schubert, Joachim Turina. Le festival Drôme en scène, le samedi 4 juillet, c'est aujourd'hui au Théâtre de Verdure de Grannes, à partir de 18h. C'est une soirée en open air dédiée à la créativité locale. 3 concerts, 3 expositions et une performance de dessin en direct. Et tout ça est retransmis sur un grand écran. En concert, The Town, le samedi 11 juillet, c'est à 21h, c'est à Sceaux, au Gasoline Palace. Laissez-vous transporter doucement au cœur des années 80. Un autre concert, Trio d'Anche Triélien, c'est le jeudi 9 juillet à 18h, et c'est aussi à l'église de Comps. C'est une formation rare. Il y a un hautbois, une clarinette et un basson. Au programme, Haydn, Bach, Verdi. Et un concert Ménalua, le groupe lauréat du concours. C'est le groupe lauréat du concours, et oui, Cré Jazz 2025. Il est en concert à Aust le mardi 7 juillet. Entre jazz moderne, influence latine et chansons intimistes, un sillon singulier dans le paysage actuel du jazz. Et enfin, je vous en ai déjà parlé, mais je continue à le redire, il y a le festival Opéra et Château qui se poursuit jusqu'au 26 juillet. Les prochains rendez-vous, c'est un récital d'opérette le 3 juillet au domaine Pélong de Suze. Et puis Don Pasquale, le célèbre opéra de Donizetti, c'est le 9 juillet à la Tour de Creil. Pour plus d'infos, achetez le Crétois.
Oui, courez vite chez votre marchand de journaux ou vous pouvez également vous abonner ou aller sur le site lecrétois.fr. Pour nous, à Radio Saint-Ferréol, l'actualité avec la lecture du journal paru le 3 juillet. Lecture faite par Thierry, Martine, Adette et moi-même Sarah à la technique. C'est fini pour cette semaine. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine.
Le Crétois, c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Saint-Ferréol, la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
Et pour cette semaine,
c'est fini.